Bonjour à tous, l'émission d'aujourd'hui a été préparée par Arjuna Andrade, Louis Drillon, Cédric Fuentes et Julie Delabrosse. À la réalisation, Elisabeth Miro, prise de son, Jacques Azubert.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
Second épisode de notre semaine consacrée au nouveau visage de la pauvreté. Après avoir vu hier que la pauvreté s'était déplacée dans la société des plus âgés vers les plus jeunes, vu également que les moyens de la calculer étaient éminemment idéologiques, on revient aujourd'hui sur 40 ans de lutte contre la grande misère depuis la fin des 30 Glorieuses. Emmanuel Macron annonçait la semaine dernière vouloir éradiquer la grande pauvreté en une génération. Alors dans quelle lignée s'inscrit le président qui affiche l'ambition de fonder l'État-providence du 21e siècle? Et cela malgré les critiques sur les insuffisances de sa politique sociale. Comment les stratégies de lutte ont-elles évolué depuis les années 70 et l'émergence de nouvelles figures du pauvre? Voilà les questions auxquelles on va tenter de répondre dans l'heure qui vient. Il est 14h sur France Culture. Bienvenue dans Entendez-vous l'écho. Comment en finir avec la pauvreté? On en parle avec Olivier Noblecourt, délégué interministériel à la prévention et à la lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes, et Serge Pogam, sociologue, chercheur au CNRS et à l'EHESS, auteur notamment de « Ce que les riches pensent des pauvres » publié au Seuil. À 14h50, on retrouvera Arjuna Andrade qui nous donnera des nouvelles de l'écho. Olivier Noblecourt et Serge Pogam, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Emmanuel Macron a donc présenté son plan pauvreté la semaine dernière. Quelle est d'abord, selon vous, la philosophie de cette nouvelle stratégie qui dit vouloir s'attaquer aux racines de la pauvreté, Olivier Noblecourt?
L'enjeu, c'est d'abord de réellement prendre en compte les évolutions des formes de pauvreté et des politiques publiques sur ces 30 dernières années. Sans être trop long, on a assisté à un triple phénomène. Des nouvelles formes de pauvreté qui ont touché de plus en plus les plus jeunes, mais aussi les familles monoparentales. Une complexité croissante des politiques publiques, avec des logiques de ciblage qui ont souvent répondu à des contraintes budgétaires des politiques en cause, qui quelque part ont sédimenté les publics, qui parfois ont organisé des logiques d'assignation par statut dans l'action publique sur les territoires, et donc qui ont éloigné les individus d'une conscience collective dans la lutte contre la pauvreté. Et puis c'est le troisième phénomène, c'est que nous avons une psyché collective, une mentalité qui a évolué de plus en plus vers une individualisation de la responsabilité sur le phénomène de pauvreté. Nous sommes passés, pour le faire de manière très schématique, d'une société qui assumait une responsabilité collective sur la pauvreté à une responsabilité qui de plus en plus a fait porter aux individus, d'une certaine manière, le poids de la faute, de l'erreur ou la marque du destin. Et tout cela, ça a eu des conséquences considérables, ces trois phénomènes, et progressivement un décalage entre les politiques publiques menées, leur efficience, c'est-à-dire que on pouvait légitimement s'interroger sur le fait que les moyens consacrés à ces politiques ne permettaient pas finalement de régler les difficultés qu'elles étaient censées affronter. Et puis, il y a progressivement un fossé qui s'est creusé entre une partie de nos concitoyens et des personnes en situation de pauvreté, avec des logiques de jugement qui se sont développées, et avec cette culpabilisation de la pauvreté, ce concept de l'assistanat qui a fait florès, bien évidemment, qui progressivement a entraîné, avec le ciblage que j'évoquais et les nouvelles formes de pauvreté, ce non-recours aux droits et aux services sociaux, qui fait que finalement, au moment où nos politiques publiques se restreignaient de plus en plus à la partie monétaire, les personnes elles-mêmes se mettaient en défiance. Et donc la logique, pour vous répondre sans être plus long, mais elle est très simple. Un, on protège dans notre modèle social ce qui fonctionne, sa partie redistributive en effet qui est très protectrice. Deux, on sort de l'impuissance des politiques sur les deux grandes limites de notre modèle social, le fait que nous sommes un modèle social marqué par la reproduction, par le poids de l'origine, par le poids de la naissance, par le déterminisme social, c'est tout l'enjeu des politiques de prévention. Et deux, que nous sortions de cet immobilisme, de cette incapacité, de cette assignation statutaire à emmener les gens vers l'autonomie par le travail. Alors, on ne protège plus en 2018 comme on protégeait il y a 20 ou 30 ans, et nous voulons inventer de nouveaux modes de protection.
On va bien sûr entrer dans le détail de toutes ces mesures que vous avez commencé à détailler, mais d'abord, Serge Pogam, un premier regard sur cette loi en général, sur l'esprit de ce plan pauvreté.
Tout d'abord, il faut rappeler, et Olivier Noblecourt l'a indiqué, que les pauvres font l'objet depuis quelques années de forme de rejet social. On ose dire aujourd'hui assez facilement que les pauvres sont gênants, que les pauvres sont parfois feignants, que les pauvres ne font pas du tout d'efforts et donc seraient en quelque sorte irresponsables. Et donc c'est bien cela qu'il faut redresser, et il faut reconnaître que le discours que nous avons entendu jeudi dernier au Musée de l'Homme, prononcé par le président de la République, donnait finalement un ton un peu surprenant venant de sa part d'ailleurs, parce que lui-même a contribué, il faut le souligner, à stigmatiser d'une façon ou d'une autre les pauvres et les chômeurs. Donc on a plusieurs petites phrases qui restent dans notre mémoire. Et donc de façon un peu surprenante, il a effectivement essayé de redresser cette vision de la pauvreté en montrant qu'il fallait effectivement prendre au sérieux la question des déterminismes sociaux, lutter contre la pauvreté par des véritables mesures préventives, et donc de prendre en compte la question de l'enfance, qui est souvent le parent pauvre de la politique publique de lutte contre la pauvreté. On a du mal à appréhender cette question, on avait du mal, et donc il faut reconnaître que de ce point de vue-là, il y a un ancrage qu'a voulu le président dans une certaine philosophie solidariste. Il y fait référence d'ailleurs, il parle effectivement d'un pilier humaniste et solidariste de son action.
Alors, il faut rappeler peut-être ce que c'est que le solidarisme.
Alors, le solidarisme, c'est la doctrine qui s'est développée à partir de la fin du XIXe siècle, que l'on doit en grande partie à Léon Bourgeois. Léon Bourgeois lui-même insistait sur la nécessité de solidarité intergénérationnelle, et il montrait que face aux aléas de la vie, face aux difficultés de l'existence, nous devions être des associés solidaires. Cela implique donc de s'intéresser finalement aussi à ceux qui arrivent au monde et qu'il faut donc protéger. Donc de ce point de vue-là, il faut reconnaître que le plan pauvreté s'inscrit dans cette filiation, même si cela, on pourra y revenir, me semble être, je dirais, insuffisant pour assumer pleinement cette démarche solidariste, parce que dans le solidarisme, il y avait aussi autre chose, et notamment la force des collectifs, le fait d'avancer collectivement en insistant sur le fait que nous avons besoin, tous autant que nous sommes, d'être attachés à des groupes sociaux pour exister socialement, pour être utiles socialement. Donc c'est la question des liens qui est essentielle aussi donc dans cette approche, et on doit quand même souligner, je pense que c'est un point qu'il faudrait rappeler, que la dimension du collectif est quand même assez peu présente, en tout cas dans ce discours et dans le plan qui nous est présenté. Et donc, c'est certainement une des carences, et je voudrais essayer qu'on essaye d'approfondir cette question-là aujourd'hui.
Vous le dites dans un article qui vient de paraître sur la plateforme AOC, vous dites que c'est ce qui se pratique dans les pays nordiques, et c'est ce qu'on appelle l'investissement social, donc cette volonté de combattre le déterminisme social. Et vous dites également que les pays nordiques ont toujours pensé le social en se référant à des collectifs de travail puissants et organisés. Olivier Noblecourt, est-ce que on a ce déficit de collectif dans ce nouveau projet, et peut-être cette responsabilité qui est mise sur l'individu, ce qui peut le faire penser à la phrase de dimanche selon laquelle voilà, il est facile de trouver un emploi, phrase qui a déjà été largement commentée jusqu'ici.
En fait, je pense que Serge Pogam a évidemment pleinement raison sur le constat, mais que son jugement est sévère sur la partie collective qu'il y a dans la stratégie de lutte contre la pauvreté, dont je rappelle que sa vocation est de donner du grain à moudre et des marges d'action aux acteurs du territoire. Moi, j'ai été pendant 20 ans un acteur des solidarités de territoire. J'ai vu leur mise en œuvre, j'y ai concouru, à la fois en tant que citoyen et en tant qu'élu. Et ce qui est parfaitement vrai, c'est que l'action collective comme cadre d'intervention s'est dégradée. On a individualisé le rapport aux personnes, on a monétisé la relation, on a fait en sorte que les personnes entrent dans des cases, dans des dispositifs. Et d'une certaine manière, on a nié la singularité de l'individu, le besoin d'appropriation par la personne de son propre projet de vie. Et ce qui est proposé dans cette stratégie nationale de lutte contre la pauvreté, qui n'est pas une baguette magique, donc bien sûr que beaucoup de travail reste à faire devant nous, et que la force du discours présidentiel l'échelle de jeudi, aussi grande soit-elle évidemment, doit s'accompagner maintenant d'actes qui doivent être aussi profonds. Mais nous allons redonner un cadre d'action collective très important. L'action collective, c'est facile à dire et à énoncer, c'est très difficile à faire, notamment parce que les formes de pauvreté ont changé et que bien souvent, dans l'action collective, eh bien, on place des individus de manière un petit peu arbitraire. Nous allons donner des moyens très importants, par exemple aux centres sociaux. Nous allons revoir l'agrément des centres sociaux qui sont les lieux qui structurent bien souvent les actions collectives sur les territoires. Et nous avons là-dessus à repenser la gouvernance des politiques sociales à partir des personnes concernées sur les territoires pour recréer un cadre d'appropriation collective de ces enjeux. Donc ça ne se décrète pas des ministères, ça ne se décrète pas même de la parole présidentielle. Il y a une impulsion qui est donnée, il y a une mobilisation qui doit être la plus horizontale possible. Et toute l'ambition maintenant des prochains mois, c'est de faire en sorte que les acteurs des territoires s'en saisissent. D'ailleurs, pour ça que je parle de stratégie et pas de plan. Un plan, c'est des mesures qui descendent d'en bas. Une stratégie, c'est une mobilisation d'acteurs au service d'objectifs partagés. C'est pas, comment dirais-je, une coquetterie de langage. C'est vraiment le sens profond. Puis un tout dernier mot. Moi, je n'ai pas entendu et n'y voyais pas le point de vue d'un militant politique que je ne suis pas en l'espèce. Je n'ai pas entendu de la part du président de stigmatisation. Quand il a parlé du pognon de dingue, ce qu'il exprime, c'est pas le fait qu'on met trop d'argent ou qu'il faudrait baisser les prestations parce que les personnes en profiteraient. Ce qu'il exprime, c'est que le coût du modèle social et du modèle redistributif monétaire est hypertrophié par rapport à la réalité que vivent les personnes, c'est-à-dire qu'elles ne sont plus accompagnées.
Oui, mais quand il dit qu'il suffit de traverser la rue pour trouver un emploi, on a vraiment l'impression que c'est très simple.
C'est un autre sujet de ce week-end qui est la question, en effet, de l'inadéquation entre des moyens d'accompagnement que nous allons renforcer et le fait qu'on a toujours 300 000 emplois non pourvus. Après, il se situe à une échelle individuelle qui n'est pas du tout mon propos là. Et vous avez bien compris la perception qui est la mienne et celle qu'on a portée dans cette stratégie sur le cadre collectif. Ce qui est important, c'est de se dire ce qu'il y a derrière, c'est que nous avons un système qui s'est déséquilibré entre sa partie de prestations monétaires et sa partie d'accompagnement. Je cite toujours ce chiffre, nous avons augmenté les dépenses de prestations sur le RSA de 80% depuis 2008, nous avons presque divisé par deux les dépenses d'accompagnement. Nous n'avons plus les moyens d'accompagner les personnes sur les territoires et de les accompagner pour qu'elles maîtrisent elles-mêmes leur projet de vie et pas que la société décide à leur place de les mettre dans une case. Je pense que c'est ce changement de paradigme qui est important.
Serge Pogam.
Oui, Olivier Noblecourt, vous insistez beaucoup sur justement l'action qui serait prise en compte de l'action collective dans ce plan. Néanmoins, quand on regarde comment ont évolué beaucoup de quartiers prioritaires, on a vu finalement ces dernières années aussi un retrait d'un certain nombre de structures qui permettait la vie collective. Vous parlez des centres sociaux, mais combien de services publics ont disparu de ces quartiers? Et donc, ce que l'on pourrait souligner, c'est que finalement, dans ce plan, où se trouve la question de la banlieue, des territoires? On n'en parle pas, alors qu'on sait par ailleurs qu'il y a eu un plan banlieue qui a été proposé par Borloo et qui a été évacué. Donc, quand même, on se demande si on veut véritablement organiser la société sur la base de groupes où il y a de la concertation entre les personnes pour que justement faire avancer des projets qui ne sont pas que des projets individuels mais des projets collectifs dans le sens du renforcement du lien social, là on trouve que c'est maigre.
Pour vous, Olivier Noblecourt, l'idée était peut-être de s'attaquer justement aux racines de la pauvreté et c'est pour ça que la priorité qui a été assumée, c'était de s'intéresser en particulier à la petite enfance et avec 30 000 places supplémentaires de crèches qui doivent être créées, l'idée de permettre d'aider les parents à revenir vers l'emploi, c'était ça la priorité?
Oui, mais sans opposer cette priorité à ce que Serge Pogam vient de rappeler, qui est tout de même une interpellation majeure, il a tout à fait raison de la poser là. D'abord, je voudrais rappeler qu'il y a une stratégie, un plan banlieue qui a été rendu public au milieu du mois de juillet, donc l'attention médiatique était portée ailleurs, mais qui met des moyens qui sont des moyens non négligeables. Donc pour moi, il n'y a pas une évacuation pure et simple des propositions du rapport de Jean-Louis Borloo. Il y a demain des politiques publiques qui vont progresser avec des moyens qui sont au rendez-vous. Mais pour rebondir sur votre question sur la petite enfance, où allons-nous mettre les crèches que nous allons ouvrir ? Dans les quartiers prioritaires. Où allons-nous renforcer l'effort sur les centres sociaux? Les 300 nouveaux centres sociaux dans les quartiers prioritaires. Qui sont les jeunes qui vont bénéficier de l'obligation de formation de 16 à 18 ans et qui vont avoir des moyens nouveaux d'accompagnement, notamment parce que nous allons financer des postes d'éducateurs spécialisés, parce que nous allons donner des moyens supplémentaires aux acteurs associatifs, aux missions locales pour aller chercher ces jeunes. Ce sont les jeunes, en effet, de ces territoires et de ces quartiers. Donc, c'est vrai qu'il y a une volonté politique de ne pas opposer entre eux les formes de pauvreté, entre elles, pardon, les formes de pauvreté, de ne pas opposer les territoires entre les territoires urbains et les territoires ruraux. Donc il y a une logique très universaliste dans cette stratégie de lutte contre la pauvreté qui, justement, veut rompre avec la logique de ciblage par public ou par territoire. Mais évidemment, ça n'enlève rien à ce que vous rappelez très justement, que moi j'appelle, parce que c'est mon identité grenobloise, le développement social. C'est né à Grenoble, le développement social des quartiers. C'était Hubert Dubedoux. Comme on va faire un peu d'histoire de l'action sociale dans notre pays, je renvoie à tout cela. Et donc, ce à quoi je crois moi profondément, c'est au développement social porté par les acteurs, c'est-à-dire aux acteurs sociaux, aux acteurs éducatifs, aux acteurs du soin, on en parle aujourd'hui justement. Et de ce point de vue, la stratégie, elle propose des moyens considérables sur la formation des travailleurs sociaux. Moi, j'ai vu des équipes de travail social qui avaient peur de rester dans les quartiers. Des gens qui venaient le matin la boule au ventre dans certains quartiers, qui ne se sentaient plus protégés, qui ne comprenaient plus le public dont ils avaient la charge. Il faut affronter cette réalité aujourd'hui de désengagement qui n'est pas qu'un désengagement institutionnel, qui est aussi une difficulté dans les pratiques d'un certain nombre de professionnels éducatifs ou sociaux. Et donc, il faut les accompagner et les soutenir et pas les culpabiliser. Nous allons mettre 60 millions d'euros sur la formation des travailleurs sociaux de la part de l'État ces prochaines années. Pour ce faire, je crois que nous nous donnons les moyens d'affronter ces questions qui sont très difficiles. Là, on est vraiment sur le cœur des enjeux de mise en œuvre et on le fait avec des moyens qui seront à l'échelle.
Sur cette idée de s'attaquer vraiment aux racines, Serge Plogam, et donc de partir de la petite enfance, de permettre un meilleur apprentissage du français, il y a aussi cette question des petits déjeuners distribués. Toutes ces mesures, elles vous semblent aller dans le bon sens pour lutter justement contre le déterminisme social ?
Alors, je dirais oui, dans la philosophie, il me semble, et il faut le rappeler, tout cela va dans le bon sens. Mais on peut aussi s'interroger sur deux choses. Tout d'abord, on dit qu'on va dédoubler les classes dans les petites sections, dans les écoles primaires, dans les quartiers les plus prioritaires, les quartiers les plus défavorisés, on va dire. Très bien. Mais en même temps, qu'est-ce qu'on nous annonce ? Suppression de postes dans l'éducation nationale. Et il va y en avoir beaucoup. Alors on se demande comment on va faire ça. C'est-à-dire d'un côté on supprime des postes et de l'autre on demande des moyens supplémentaires pour dédoubler les classes. Donc déjà, moi je m'interroge. Alors une autre chose, c'est quand on parle des enfants, c'est bien, mais les enfants, ils rentrent le soir dans leur famille. Quel est le cadre protecteur pour les enfants ? C'est bien sûr l'école, mais ce n'est pas que. On voit effectivement qu'il est important que l'enfant se sente sécurisé. Or, les enquêtes qui ont été menées justement auprès des enfants, je pense en la consultation nationale que mène l'UNICEF sur les 6-18 ans, montre que justement les jeunes vivant dans les quartiers prioritaires, dans ces quartiers populaires, sont le plus souvent privés de façon cumulative, vivent finalement dans une insécurité d'existence de ce point de vue-là et sont justement discriminés parce qu'ils manquent de bien-être matériel, du bien-être éducatif. Même en termes d'accès à la santé, il y a des écarts. Et donc, comment on va réduire ces écarts si on ne pense pas au niveau de vie de ces familles ? Tout de même, c'est pas parce qu'elles vont uniquement être accompagnées vers l'emploi que les problèmes vont se résoudre immédiatement. Donc il y a certainement un niveau d'action qu'il faut envisager dans ces zones où il y a effectivement un cumul massif de difficultés.
On va laisser répondre Olivier Noblecourt, et notamment peut-être sur ce deux poids deux mesures entre ces 1800 suppressions de postes annoncées dans l'Assemblée nationale et en même temps cette volonté effectivement de...
Dans l'éducation nationale, parce que dans l'Assemblée nationale,
dans l'éducation
le plan social
nationale.
Sur les députés me paraît plus faible. Ça n'est, envisagé.
Ça n'est pas encore l'idée dans l'éducation nationale, absolument. Voilà, et en même temps, cette volonté de dédoubler les classes les plus
Écoutez, basses. Moi j'ai été directeur de cabinet de la précédente ministre de l'Éducation nationale, donc j'ai préparé plusieurs rentrées scolaires, je connais la difficulté de la tâche. Il y a une équation qui est compliquée dans l'éducation nationale, c'est que tous les rapports, tous les acteurs, tout le monde sait, depuis au moins 3 décennies, que nous avons un déséquilibre entre le premier degré et le second degré. L'école française a surinvesti sur le collège et surtout sur le lycée et elle a désinvesti la petite enfance et notamment l'école maternelle et aussi l'école primaire, l'école élémentaire. Ce que veut faire Jean-Michel Blanquer, qui est en parfaite continuité d'ailleurs de ce qui a été fait les 5 dernières années, c'est de rééquilibrer le système scolaire et je pense qu'il a raison, c'est courageux d'aller au bout de cette logique-là. Le dédoublement va en ce sens et on sait très bien que les savoirs fondamentaux, lorsqu'ils sont mal acquis au départ, eh bien, on peine énormément à les rattraper ensuite. Et donc, c'est ce que chacun connaît, qui sont d'ailleurs les grandes théories de l'investissement social. La courbe de Ekman, prix Nobel d'économie, et tous les travaux qui ont été conduits montrent que plus l'investissement est précoce, plus il est rentable pour les personnes et pour la collectivité. C'est les cas de la petite enfance, c'est le cas dans l'éducation nationale. Donc pour moi, il n'y a pas de poids, de mesure. Il y a une difficulté aujourd'hui, c'est que l'éducation nationale doit prendre sa part, évidemment, d'efforts de gestion et des comptes publics, de redressement des comptes publics, et qu'en même temps, elle a des effectifs qui augmentent dans le second degré, à un moment où il faut continuer à pousser l'effort dans le premier degré. Donc c'est une équation qui est compliquée pour l'éducation nationale. Et pour moi, tout n'est pas dans les effets d'annonce. Ce qui va être important, c'est justement les choix qui seront opérés à l'échelle territoriale entre les territoires sur cette gestion de la diminution des places dans le second degré. Mais il faut rester calme. 1800 postes à l'échelle de l'éducation nationale. On est quand même très très loin des purges qui ont eu lieu sous les mandats de Nicolas Sarkozy. Donc il faut là-dessus rester prudent. Après, sur ce qui est dit sur le deux poids deux mesures, là encore, évidemment, le constat est sans appel et il est particulièrement juste. Ce que nous proposons, par exemple sur la santé, c'est des moyens importants pour ouvrir de nouveaux centres de santé dans ces quartiers. Les centres de santé, par exemple, associatifs, je connais bien le modèle grenoblois qui suit 20 000 personnes, qui est un des modèles les plus aboutis, j'en ai été administrateur longtemps. C'est un modèle de santé dite communautaire au sens de la communauté de vie, intégrée, qui fonctionne. Nous allons déployer les services de santé. La PMI va être refondue. On en parle peu parce que c'est pas très médiatique comme sujet, mais la PMI c'est essentiel pour beaucoup de familles dès le plus jeune âge. L'accès à l'alimentation, ça n'est pas gadget, c'est un sujet là aussi à la fois pour les enfants mais pour le pouvoir d'achat des familles.
La PMI, il faut dire protection maternelle.
Protection maternelle et infantile, vous avez raison de me rappeler à l'ordre sur les acronymes. Nous allons travailler aussi sur le déploiement de 400 points conseil budget parce que beaucoup de familles ne méconnaissent le fait qu'elles pourraient bénéficier de réductions, elles pourraient mieux gérer un certain nombre d'aspects dans le budget du ménage. Et là où on a déjà déployé des points conseil budget, on a vu une amélioration sur le budget des familles. Donc nous n'avons aucune prétention à l'exhaustivité ou à la perfection. Ce plan et cette stratégie sont évidemment critiquables et atteignent leurs limites. Mais l'intention, elle est très claire, c'est de renforcer les moyens des politiques publiques là où c'est le plus nécessaire, en sachant que c'est difficile et que ça prendra du temps et que l'État ne le pourra pas le faire sans les acteurs.
Alors le deuxième grand objectif de ce plan pauvreté, on a commencé à le dire, c'est d'accompagner les jeunes et les bénéficiaires du RSA vers l'emploi. Car le problème, c'est qu'à 18 ans, les jeunes ne bénéficient soudain plus de l'aide sociale à l'enfance. Alors cela passe par différentes choses, la garantie jeune qui avait été créée sous la législature précédente mais qui va être élargie, cette nouvelle obligation, celle de se former jusqu'à 18 ans, il y a à peu près 20 000 jeunes chaque année qui sont en situation de décrochage scolaire. Mais alors la question qui se pose, c'est voilà, comment est-ce qu'on peut accompagner ces bénéficiaires du RSA vers l'emploi alors que voilà, les départements manquent de moyens pour mettre en œuvre ce volet réinsertion. Est-ce qu'il faut décharger les départements de cette responsabilité? Est-ce que c'est un des objectifs de cette stratégie, Olivier Noblecourt?
Il y a deux choses importantes. La première, c'est que cette stratégie fait le pari de construire toutes les politiques publiques à partir de la situation des gens les plus fragiles, les plus en difficulté. Et c'est ça qu'impose la parole présidentielle lorsqu'elle parle d'un objectif d'éradication. Éradiquer, ça veut dire que c'est toujours celui qui est le plus en souffrance qui doit être le curseur de réussite et de mise en œuvre d'une politique publique. C'est le cas dans l'éducation avec les dédoublements évoqués et les efforts faits. Ça va être le cas demain dans le social et notamment, vous l'évoquez, sur la formation et sur l'accompagnement. Donc, nous allons, sur l'accompagnement, changer massivement les moyens en mettant des moyens d'État. C'est un investissement, c'est-à-dire que le président fait le pari que en mettant plus de moyens sur l'accompagnement vers l'emploi, on rendra plus de personnes autonomes par leur travail et on répondra à leurs souhaits. Je vous rappelle que c'est le souhait des personnes elles-mêmes, elles souhaitent pas une prestation monétaire majorée, ce qu'elles souhaitent c'est être accompagnées vers l'autonomie par le travail. Et que ce faisant, tout le monde y gagnera, les individus, mais aussi évidemment demain la dépense publique. Ça va, les deux vont de pair et c'est un cercle vertueux de réinvestissement dans l'accompagnement. Et pour ça, on part des plus éloignés. On déploiera les dispositifs expérimentaux portés par les associations Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée, Tapage, qui s'adresse à des personnes en grande souffrance et qui travaillent quelques heures par semaine. Nous allons développer les dispositifs d'accompagnement médico-sociaux. 25% d'augmentation de l'ONDAM spécifique, donc des dépenses d'assurance maladie, pour les dispositifs qui s'adressent aux personnes qui ont des pathologies psychiatriques, qui ont des addictions. On va développer les moyens de l'insertion par l'activité économique. Et puis tous les moyens d'accompagnement dit global, c'est-à-dire ce qui permet d'éviter qu'on soit mis dans une case soit d'un accompagnement social, si on en considérait comme trop loin de l'emploi, soit un accompagnement dit professionnel, en considérant que finalement vos problèmes sociaux, vous pouvez vous-même en prendre votre part. Là aussi, il y a un mal français depuis 20 ans. Depuis la création du RMI, on n'a jamais réussi à résoudre cette équation de l'orientation. Et la logique de service public de l'insertion que le président de la République a a annoncé, c'est une logique de remise en ordre des acteurs, non pas pour que l'État fasse à leur place, non pas pour leur dire qu'ils font mal leur travail, mais pour leur dire nous devons être dépositaires collectivement d'une meilleure exigence d'égalité de traitement sur le territoire, d'une meilleure efficience, et ça c'est le rôle de l'État de le garantir, et il le fait avec des moyens.
Serge Pogam, sur cette question de l'insertion et du fait qu'on pousse peut-être les gens vers l'activité plus que l'emploi, finalement on ne sait pas quel type d'emploi, si ce seront des emplois véritablement stables.
Alors on ne va pas effectivement se plaindre de la mise en place d'un service public d'insertion. Ça c'est effectivement un élan important pour la France tout entière. Mais en même temps, effectivement, vous l'indiquez, on parle ici de revenus universels d'activité. Alors on se demande, mais finalement, activité, c'est quoi activité ? Et l'insertion professionnelle, c'est vers quel emploi ? Il y a beaucoup de non-dits autour de cette question, parce que on ne veut pas s'attaquer à la question de la précarité professionnelle. Mais il faut quand même rappeler que dans notre pays, ce n'est pas aujourd'hui forcément par l'emploi qu'on sort de la pauvreté, parce qu'il y a de nombreux emplois qui ne permettent pas de sortir de la pauvreté, parce qu'ils sont précaires, parce qu'ils sont usants, parce qu'ils sont aliénants, parce qu'ils sont dégradés, est tout simplement indécent. Et donc, là aussi, quand on se réfère aux pays scandinaves, les pays scandinaves font la chasse aux mauvais emplois, aux emplois qui, justement, créent de la souffrance. Et alors, il ne s'agit pas de dire que tout le monde va être spontanément heureux au travail, mais en tout cas de faire un effort pour aller dans le sens d'une meilleure intégration professionnelle, là où les individus vont se sentir, justement, attachés à un groupe professionnel, où ils vont pouvoir se construire professionnellement en fonction justement d'une appartenance à une profession donnée qui a des conventions, qui a des codes, des ontologies, etc. Et c'est tout cela qui est nécessaire. Et la solidarité, c'est aussi la solidarité à l'intérieur de ces groupes, mais c'est la solidarité entre ces groupes professionnels dans un tout social, un tout organique, pour reprendre l'idée de solidarité organique du fondateur de la sociologie, Émile Durkheim. Donc c'est bien cette idée-là qui me semble aujourd'hui être pas suffisamment travaillée. Et donc c'est la thèse que je défends, c'est que finalement on va accompagner des jeunes, des moins jeunes, de façon individuelle, mais finalement en leur disant vous allez il faut vos responsabilités pour rentrer dans cette jungle, rentrer dans ce marché du travail extrêmement précaire, alors que justement, il faudrait aussi se donner des garanties collectives pour que ces jeunes n'entrent pas n'importe où, qu'il y ait des emplois qui soient effectivement des emplois intégrateurs.
Olivier Noblecourt, on connaît le problème des travailleurs pauvres, évidemment, effectivement, est-ce que aller vers l'emploi, c'est véritablement sortir de la pauvreté ?
Aller vers l'emploi, c'est d'abord s'assurer de sortir de la grande pauvreté. C'est-à-dire que vous savez qu'il y a des débats importants sur le calcul du taux de pauvreté, 60% du revenu médian, c'est ce qu'on retient en France généralement, mais beaucoup d'acteurs pensent que la pauvreté en France, en fait, elle se situe plutôt autour de 40% du revenu médian. Et là, d'un seul coup, les travailleurs pauvres commencent à être beaucoup plus rares quand on se situe sur ce niveau de revenu. Mais il y a une forme de précarité, de développement d'un précariat. Serge Pogam vient d'en parler abondamment et à bon droit, qui doit nous inquiéter. Et on ne peut évidemment pas se satisfaire d'avoir moins de très très pauvres, si c'est pour avoir beaucoup d'un peu pauvres, et d'avoir une espèce de nouvelle classe laborieuse pauvre qui serait institutionnalisée. Alors, revenons sur les mots. D'abord, vous étiez parti dans votre interrogation du revenu universel d'activité. Universel, pourquoi ? Parce que tout le monde pourra y avoir recours, quelles que soient ses formes de vulnérabilité sociale. Et l'universalité, ça n'est pas l'inconditionnalité. Il y a souvent beaucoup de confusions qui sont faites. Le revenu universel que portait Benoît Hamon, c'est sa version 2 dans l'élection présidentielle, est un revenu universel conditionnel, sous condition de ressources. Bon. D'activité, pourquoi ? Parce qu'il faut toujours qu'un revenu universel ait une perspective d'activité pour celles et ceux qui peuvent y prétendre et ait une perspective d'autonomie par le travail, parce que c'est l'essence même de notre modèle social. Et donc, je viens à votre question sur le type de marché du travail que nous voulons avoir. La première chose qu'a dit le président de la République et qui est essentielle, c'est que nous voulons réarrimer notre modèle de protection sociale au travail, au marché du travail. C'est ainsi que la sécurité sociale s'est construite dans notre pays. Et donc, je le dis parce que d'autres pourraient faire le choix d'un grand système assistentiel, payé par l'impôt, et qui serait désarrimé du marché du travail.
Il faut bien dire, contrairement à ce que proposait Benoît Hamon, que précisément ce revenu universel ne remet pas en cause cette centralité de la valeur travail.
C'est exactement ça. C'est-à-dire que ce qu'a porté Benoît Hamon, c'est une philosophie qui s'explique, qui est portée par beaucoup de gens. Je pense aux travaux de Dominique Méda sur le fait que le travail ne serait plus le déterminant, la valeur centrale de notre société. C'est des ouvrages maintenant qui sont là depuis de nombreuses années. J'ai pas encore vu exactement que leurs prédictions se soient avérées exactes. Mais toujours est-il que le choix que nous faisons, très clairement, c'est le réarrimage au travail. Après, quel travail? Alors, il faut avoir l'humilité de dire qu'il faut restructurer le marché du travail aujourd'hui dans un paysage qui reste complexe. Il y a une négociation interprofessionnelle, notamment sur les contrats courts, le précariat, qui donc les acteurs eux-mêmes du marché du travail, les partenaires sociaux doivent en prendre leur part. L'État doit trouver le bon équilibre entre les protections collectives qui ont été évoquées, qui sont à la base du solidarisme, et le fait que le marché du travail reste inclusif. C'est-à-dire qu'un marché du travail qui surprotégerait ceux qui sont à l'intérieur de ce marché du travail, finalement serait peu accessible aux personnes les plus précaires et qui resteraient toujours en périphérie et éloignées. Ce que je viens de décrire, c'est l'évolution du marché du travail sur les 20 dernières années. Le pari qui est fait, c'est celui d'un marché du travail plus ouvert, avec des droits portatifs, avec un droit à la formation réelle, avec la possibilité de se former et d'évoluer. Et donc, nous allons en effet vers un système moins rigide, mais je l'espère, avec des garanties et des protections nouvelles. Elles ont commencé à être construites dans le précédent quinquennat, elles vont être renforcées maintenant, nous allons créer un droit à l'accompagnement, et on ne s'intéressera plus uniquement aux droits des personnes qui sont actives sur le marché du travail, aux demandeurs d'emploi, on s'intéressera aussi aux bénéficiaires des minima sociaux. Je peux vous dire que ça fait une sacrée différence. Poverty is on your mind for an apple pie. Poverty is on your mind, am I in your bye?
Écoutez France Culture, entendez-vous l'écho, Tiffaine de Rocchini.
Et on entendait Poverty par Miro. On est toujours avec Olivier Noblecourt, délégué interministériel à la prévention et à la lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes, et Serge Pogam, sociologue, chercheur au CNRS et à l'EHESS. Dans ce plan, dans cette stratégie de lutte contre la pauvreté, apparaît aussi la question du logement. L'objectif, c'est de résorber les bidonvilles d'ici à 2022. La question des bidonvilles qui était déjà évidemment un problème essentiel à la fin des années 60.
On peut évaluer à environ 400 000. En procédant par recoupement, le nombre des personnes qui logent dans ces bidonvilles. On assiste peu à peu à la diminution de la densité d'habitation dans les grands bidonvilles, mais ça ne résout pas le problème. Il semble que l'administration ait mal interprété les instructions données lorsqu'on disait logement et résorption des bidonvilles et qu'on a mis l'accent plus sur la résorption que sur le logement. Ce sera à coup de bulldozer que l'on aura résolu le problème, sans penser que derrière chaque baraque qui s'écroule sous les coups des démolisseurs, il y a des familles, il y a des êtres humains dont on n'a pas résolu le problème.
Le militant des droits de l'homme, journaliste et homme politique Daniel Mayer en 1968. Serge Pogam, on peut dire que la pauvreté est alors directement associée et peut-être cantonnée à la question des taudis et des bidonvilles à la fin des années 60, dans un contexte où la pauvreté n'est pas reconnue véritablement en tant que telle. Il n'y a pas alors de plan de lutte contre le dénuement.
Oui, absolument. Et d'ailleurs, quand dans les années 70, quand on parlait de la pauvreté, c'était toujours sous l'angle de ce sous-prolétariat des bidonvilles. Les travaux qu'on menait sur la pauvreté étaient inexistants. C'était à travers le logement que l'on réfléchissait à la question de la pauvreté. Mais justement, ce qui me semble vraiment important de rappeler, c'est que ce qui peuplaient ces bidonvilles, c'était aussi des personnes à l'époque qui étaient mal intégrées dans le monde du travail. C'était ceux qui n'avaient pas une stabilité professionnelle suffisante pour pouvoir donner des garanties suffisantes pour avoir un logement stable. Or, le problème, il est aujourd'hui le même. Et c'est la raison pour laquelle traiter la question du logement indépendamment de la question de l'emploi me semble une mauvaise approche, parce que la question est de savoir justement comment on va réglementer le marché du travail de façon à ce que les personnes les moins qualifiées, les moins adaptées au monde du travail soient aussi protégées par un certain nombre de garanties pour qu'elles puissent justement être jugées solvables quand elles s'adressent au marché du logement et qu'on puisse leur faire confiance en disant ben oui, j'ai des garanties parce que j'ai un emploi. Or, très souvent, ces personnes qui s'adressent au marché immobilier pour obtenir une location, on voit très bien qu'elles font une série de petits boulots instables et donc elles sont évidemment rejetées. Donc la question me semble vraiment importante de faire une passerelle entre cette question de la réglementation de ces emplois qui sont très précaires et qui ne protègent pas, en trouvant des formes complémentaires de protection par exemple, et justement ce marché du logement qui, chacun le sait, est extrêmement sélectif aujourd'hui dans l'accès à la location par exemple.
Alors l'objectif, je le disais, du plan pauvreté, résorber les bidonvilles d'ici à 2022, par quoi est-ce que cela passe, Olivier Noblecourt, et est-ce qu'effectivement on ne peut pas penser séparément cette question de l'intégration sociale et cette question du logement?
On ne peut évidemment pas les penser de manière séparée. Je suis plus dubitatif que Serge Pogam sur l'analogie entre la situation de 2018 et celle des années 70. Je suis allé il n'y a pas très longtemps en Seine-Saint-Denis sur une très belle exposition rétrospective sur les bidonvilles en Seine-Saint-Denis. Il y en avait beaucoup dans les années 70. Et ce qui caractérisait la population de ces bidonvilles, c'est qu'il y avait certes déjà beaucoup d'enfants, mais surtout c'était que des ménages actifs. C'est-à-dire que les personnes étaient pour l'essentiel des populations migrantes qui venaient travailler. Et donc tout le monde partait au travail le matin, tout le monde revenait le soir au travail. Et l'enjeu majeur, c'était le rythme de construction d'une offre de logements sociaux à proximité pour permettre la sortie vers le logement des populations des bidonvilles. Et d'ailleurs, c'était assez savoureux et même émouvant de voir que certaines familles avaient grandi à 200 mètres du bidonville où ils ont vécu en arrivant sur le territoire. La situation est très différente aujourd'hui parce que les personnes qui sont dans les bidonvilles ont du mal à s'intégrer sur le marché du travail ou travaillent beaucoup au black, l'économie informelle, pour dire les choses, voilà, ou parfois ont des modes de vie délictueux et parfois des mafias qui prennent le pouvoir sur certains bidonvilles. Et il ne faut pas négliger cette dimension traite des êtres humains, y compris de traite des enfants, qui est un problème absolument majeur qu'on ne retrouvait pas dans cette forme systémique, même s'il y avait évidemment des dérives aussi il y a 40 ans de cela.
C'est en tout cas à partir des années 70, à la fin des 30 glorieuses, qu'émerge une nouvelle réflexion sur la nécessité de lutter contre l'exclusion sociale, et cela à cause de l'augmentation massive du chômage. Donc dans les années 80, on découvre ceux qu'on appelle les nouveaux pauvres, qui sont principalement des chômeurs de longue durée. Et c'est dans ce contexte qu'est créé le RMI, le revenu minimum d'insertion, en 1988.
RMI-ISF. Voilà deux sigles qu'il est bon de retenir, car on va beaucoup en parler. Le RMI, c'est le revenu minimum d'insertion. Et l'ISF, c'est l'impôt de solidarité sur la fortune. Ils font l'objet de deux projets de loi que le Conseil des ministres a adoptés ce matin et qui seront ensuite discutés à l'automne par le Parlement. Deux projets qui figuraient dans le programme du candidat Mitterrand auquel le gouvernement Rocard attache une grande importance, et dont Claude Évin, le porte-parole du gouvernement, a rappelé les buts après le Conseil des ministres.
D'une part, garantir un minimum de ressources à tous les Françaises et les Français, je dis bien à tous, et je pense particulièrement aux agriculteurs. Deuxièmement, de mettre en place dans chaque département des actions d'insertion, des politiques départementales d'insertion. Et le troisième critère de ce projet, c'est qu'il y ait un contrat, un engagement des personnes qui recevront ce revenu minimum pour accepter de s'insérer dans la société.
Voilà l'adoption des projets de loi du RMI et de l'ISF lors du Conseil des ministres le 13 juillet 1988. On observe alors déjà cette tension entre d'un côté cette volonté de permettre aux plus démunis de vivre dans des conditions décentes et de l'autre celle de les responsabiliser, d'exiger des contreparties de leur part.
Oui, la logique de l'insertion elle est déjà très présente, mais c'est très emblématique du petit débat qui s'esquissait sur les bidonvilles. Le RMI, c'est la création par la loi d'un filet de sécurité universel qui vient enfin parachever la mobilisation d'acteurs associatifs et d'initiatives locales, d'élus locaux, de collectivités dans les décennies qui ont précédé. Et philosophiquement, l'enjeu, c'est de faire en sorte que chacun puisse être protégé et accompagné vers l'emploi. On a protégé, on a cessé d'accompagner vers l'emploi. Quand j'évoquais la différence sur les populations des bidonvilles, c'est qu'aujourd'hui, les personnes, à la différence d'hier, ne sont pas autonomes par le travail. Et donc, pour les protéger, il ne faut pas seulement mieux réglementer, pour reprendre l'analogie de Serge Pogam tout à l'heure, il faut à nouveau se donner les moyens d'accompagner. Et donc, ce que prévoit la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté, c'est des moyens à la fois d'accès au logement et de sortie des bidonvilles. Je rappelle que, en effet, et ça a été dit tout à l'heure par Serge Pogam, nous faisons droit enfin à la figure de l'enfant en situation de pauvreté. C'est encore contesté par certains l'idée qu'on puisse parler d'enfants pauvres. Bien sûr que s'ils sont pauvres, c'est que leurs parents sont en situation de pauvreté, mais ils ont des besoins sociaux, une réalité de vie quotidienne qui appelle des réponses de politique publique dédiées. C'est ce que nous allons créer véritablement, y compris avec des équipes de maraudes financées par l'État, sur la situation de ces 3 à 4 000 enfants qui grandissent aujourd'hui en bidonville, des dispositifs spécifiques de sortie et de l'accompagnement vers l'emploi. Je le redis, il y a 40 ans, les personnes accédaient à l'emploi et travaillaient quand elles étaient en bidonville. Aujourd'hui, elles en sont très éloignées. Nous renouons avec cette philosophie initiale du RMI, protéger et accompagner.
Serge Pogam, et peut-être aussi sur ce qu'a apporté à ce moment-là le RMI en 1988.
Oui, alors peut-être une toute petite clarification concernant les bidonvilles. Il est clair, et Olivier Noblecourt a raison de rappeler que le contexte économique était évidemment différent. On était dans une situation de plein emploi, on ne l'est plus. Mais il n'empêche que le bidonville était finalement le lieu où se retrouvaient les personnes qui avaient été triées, c'est-à-dire qui étaient jugées déjà insolvables, parce que leur revenu tiré du travail était insuffisant pour satisfaire les exigences des logeurs de l'époque. Et donc, le problème, il était quand même présent. Il s'agissait, on parlait même à cette époque, beaucoup de sous-prolétariat dans cette optique-là. Alors, le RMI apporte effectivement un souffle nouveau, parce que ce qui est vraiment nouveau, c'est que les aides ne sont plus des aides facultatives ou extra-légal, qu'il faut négocier avec le travailleur social. À l'époque, avant le RMI, quand je faisais mes premières enquêtes, les personnes devaient parfois montrer qu'elles étaient pauvres et qu'il fallait, quand l'assistante sociale était chez eux, qu'ils ouvrent leur placard pour justement montrer qu'il n'y avait plus rien à manger. Ça, avec le RMI, c'est fini. C'est-à-dire qu'on entre dans le RMI avec l'idée que l'on a un droit qui n'est pas contestable. Donc ça, c'est la grande avancée. Et on le doit aussi, finalement, à la pression qu'a pu exercer le mouvement ATD Quart Monde pour arriver à cette reconnaissance du droit. Donc ça, c'est incontestable. Alors, vous disiez tout à l'heure qu'effectivement, il y avait cette idée déjà de la responsabilité. Je crois que dans le RMI, les débats parlementaires à l'époque ont vraiment insisté, au contraire, à ce qu'il faudrait vraiment, avec la philosophie avec laquelle il faudrait renouer, d'engagement réciproque. On mettait en avant que c'était aussi la collectivité dans sa globalité qui devait trouver des solutions d'insertion, que tout, on ne pouvait pas faire reposer la responsabilité uniquement sur les allocataires du RMI parce qu'ils s'étaient déjà éloignés du marché de l'emploi. Donc la collectivité devait s'organiser. Et c'est ça qui me fait penser aujourd'hui qu'il y a un manque dans le nouveau projet du gouvernement, parce que justement il y a peut-être pas suffisamment d'efforts pour justement faire émerger des corps intermédiaires pour permettre cette insertion à l'échelon local, dans les territoires ruraux, dans les quartiers sensibles, etc.
L'époque, la contrainte avait été envisagée. Elle a finalement été abandonnée.
Oui, mais elle était souple. Alors que dans le plan, Emmanuel Macron le soulignait, il parle de sanctions. Il s'agit effectivement de, en quelque sorte, de dire que si vous ne respectez pas votre engagement d'être accompagné vers ce type d'activité, vous risquez d'être sanctionné. Ce qui me semble totalement en décalage par rapport au projet humaniste qu'il soutient par ailleurs.
Avec le revenu universel d'activité, l'idée ce sera que on ne pourra plus refuser deux offres d'emploi. Non. Alors expliquez-nous, est-ce que ça veut dire que ceux qui bénéficient du RSA aujourd'hui pourront refuser deux offres d'emploi à la suite, comme on ne peut pas le faire quand on est à Pôle emploi aujourd'hui?
Alors, il y a beaucoup de confusion dans ce débat, parce que chacun oublie, parfois à dessein, mais ce n'est pas votre cas, que beaucoup de bénéficiaires du RSA sont accompagnés par Pôle emploi. 800 000.
Je parle de ceux qui ne le sont pas.
Millions, et donc ils sont soumis au contrat d'engagement que Pôle emploi, projet d'accompagnement personnalisé que Pôle emploi leur propose. Et en effet, ils ont les mêmes obligations que n'importe quel demandeur d'emploi. Et c'est ça que le président de la République a rappelé. Moi, je voudrais revenir sur ce que disait Serge Pogam un instant, parce que c'est l'essence même de la philosophie qui est portée aujourd'hui. Et c'est ce que nous avons abandonné. Ce sont les engagements réciproques. Qui a été défaillant dans les engagements réciproques depuis deux décennies? Ce sont les individus qui auraient lâché prise et qui auraient préféré le confort de l'assistanat d'une prestation monétaire, ou ce seraient les collectivités, au premier rang l'État, qui auraient abdiqué les dépenses d'insertion en pensant qu'on avait fait le job avec une prestation monétaire? Ce qu'a rappelé le président de la République, c'est que les torts étaient du côté des pouvoirs publics et que ça n'était pas les individus qu'il fallait culpabiliser. Et donc, nous proposons un réinvestissement totalement inédit en termes de moyens pour les politiques d'accompagnement. Je suis navré, mais la stratégie de lutte contre la pauvreté, c'est 8,5 milliards, 4 milliards d'augmentation de la prime d'activité, qui est une forme de réponse au précariat, hein, je le rappelle quand même, 4 milliards c'est pas rien, et la prime d'activité, l'INSEE l'a dit il y a quelques jours encore, sur l'évolution à la baisse du taux de pauvreté en France, c'est un puissant moteur contre la pauvreté, notamment des salariés pauvres. Et nous mettons 4 milliards sur l'accompagnement, une partie de prévention. Je suis désolé, ce sont des moyens absolument inédits. J'ai détaillé il y a quelques minutes, donc je n'y reviens pas, un certain nombre de mesures d'accompagnement. Vous avez raison quand vous dites qu'il faut réalimenter l'action des corps intermédiaires sur les territoires. Donc ça ne va pas se faire du jour au lendemain, parce qu'il y a des tissus locaux qui ont été détruits. Donc il faut le temps de les reconstruire. Mais nous nous donnons ces moyens-là. On va mettre plus d'un demi-milliard par an sur l'accompagnement vers l'emploi. Ce sont des moyens humains, hein. C'est des moyens d'accompagnement qui avaient disparu. Donc moi vraiment, je veux assumer et porter devant vous que dans cet engagement réciproque, il y aura un engagement de la collectivité. Après, les sanctions, elles ont toujours existé. Hein. Dès le RMI, il y a toujours eu des possibilités de sanctionner des personnes qui ne s'inscrivaient pas dans des parcours d'insertion. Et l'enjeu, c'est pas de durcir, l'enjeu, c'est de rendre effectif un cadre d'engagement réciproque qui, pour l'instant, est purement théorique.
Serge Pogam.
Oui, alors, dans le RMI, c'était très difficile à appliquer, parce que de toute façon, la logique même du contrat d'insertion, on n'a jamais été jusqu'au bout, puisque on n'a jamais réussi véritablement à proposer un contrat d'insertion à tous les allocataires du RMI. Il n'y a eu finalement qu'un allocataire sur deux qui s'est vu proposer un contrat d'insertion. Donc il était difficile de mettre en œuvre une politique de sanction, de culpabilisation, puisque c'était plutôt une défaillance, comme vous l'avez dit, plutôt des pouvoirs publics déjà à cette époque. Donc, sachant qu'il y a eu quand même beaucoup de moyens à l'époque qui ont été engagés dans l'insertion, on se dit il faudrait en mettre encore beaucoup plus, parce que l'accompagnement, c'est quelque chose qui est certainement le point qui a été le plus mal réussi dans le cadre du RMI. Donc il faut aller plus loin. Donc or, j'ai pas entendu de création massive de postes pour de travailleurs sociaux pour permettre cet accompagnement. Vous avez indiqué quelques éléments, mais ça ne me semble pas à la hauteur de cet engagement qui est d'offrir un accompagnement social personnalisé dans des structures permettant l'action collective pour toutes les personnes aujourd'hui en situation de pauvreté.
Olivier Nebeucourt,
c'est pourtant bien le cas. Lorsque Michel Rocard crée le RMI, vous le savez parfaitement, il crée une obligation de dépenses d'insertion à hauteur de 20% des dépenses d'allocation dans les départements, qui a été ensuite baissée à 17 et 16%. Aujourd'hui, on est à moins de 7%. Les départements en politique d'insertion dépensent aujourd'hui 670 millions d'euros pour 11 milliards de prestations. Nous allons réinvestir massivement avec ces demi-milliard, ces politiques d'insertion. Et donc, nous allons nous rapprocher de ce qu'était l'objectif législatif initial. On renoue bien avec l'esprit du RMI.
Vous citiez Michel Rocard, et justement, il tirait le bilan du RMI. C'était en 2008, et il disait effectivement que ces dispositifs d'insertion étaient insuffisants et ne parvenaient pas à jouer leur rôle.
Accompagner physiquement, durablement, des gens désocialisés, on n'avait absolument jamais fait ça. Et je disais, si ça réussit dans le tiers des cas, ce sera pas mal. Et on est tombé à peu près sur le tiers des cas comme résultat. Donc faut pas rêver des comportements sociaux, le mépris des pauvres. C'est une attitude sociale que nous avons depuis des siècles. L'idée qu'il suffisait d'une loi nouvelle pour changer ça était une idée absolument stupide. Et c'est au nom de cette stupidité que des gens ont critiqué le RMI parce que, soi-disant, l'insertion, ça marchait pas. Au total, il y a entre 400 et 500 000 sur 20 ans maintenant, bénéficiaires de l'insertion qui ont retrouvé du boulot. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. C'est qu'on a compris assez vite qu'au lieu de gérer un flux permanent et limité de gens entre deux boulots, de chômeurs en fin de droit, pour les ramener vers le marché du travail, le RMI s'est mis, faute de l'économie générale de redémarrer, monde, France, enfin il y a des responsabilités partout, mais c'est un autre sujet, il a géré un stock croissant de gens largués, y compris les vrais chômeurs. Et donc ça a engorgé le dispositif financier, on a commencé à manquer d'argent, ça a surtout engorgé beaucoup plus le dispositif d'insertion, parce qu'on manquait de personnes qualifiées pour ça. Et du coup, une des dispositions de précaution du RMI pour qu'il soit bien, qu'il corresponde bien à son idée originelle, qui était dès qu'il y a travail et ressources autres, c'est plus le RMI, devenait la trappe, devenait l'enfermement avec interdiction de se soulager même en trouvant des petits boulots.
Michel Rocard, invité dans la matinale de France Culture en 2008. 2008 qui est aussi l'année où est proposé donc le RSA, le revenu de solidarité active. Et l'objectif, c'est d'abord que ceux qui retrouvent un travail ne voient pas leur revenu diminuer. C'était ça l'enjeu, Serge Pogam.
Oui, avec un mécanisme d'incitation à la reprise d'une activité, d'un petit boulot, puisqu'on a permis effectivement le cumul du versement du RSA avec ses revenus tirés de l'activité de façon au moins partielle. Et donc, ce qui finalement, de mon point de vue, moi je trouvais qu'il y avait là quelque chose qui relevait d'un retrait par rapport à cette grande ambition d'insertion. Parce que finalement, puisqu'on avait mis en place ce mécanisme incitatif, on n'avait plus besoin de faire au moins autant de recherches collectives, de solutions d'insertion. Il suffisait finalement de faire jouer le marché du travail et l'incitation et donc le résultat, c'est celui qu'a décrit Olivier Noblecourt, c'est que finalement les dépenses d'insertion dans les départements se sont effondrées, et ça, je pense qu'on le doit aussi à cette c'est aussi l'effet de ce RSA qui me semble avoir été peut-être une mauvaise idée, même si à l'époque on considérait déjà que c'était une avancée géniale.
Olivier Noblecourt, d'un mot sur le RSA, on arrive presque au terme de cette
émission. Je pense que le RSA a été victime de la crise de 2008 et que pour une large part, l'explosion des dépenses a empêché au dispositif d'atteindre ses objectifs. C'était deux choses, le RSA, faire en sorte toujours que la reprise d'activité, que le travail paye plus que l'absence d'activité. C'est fondamental aujourd'hui, y compris pour l'acceptation de notre modèle social dans l'ensemble de la population. Et je le redis, il y a beaucoup de gens aujourd'hui, j'en ai rencontré dans la concertation, qui continuent à nous dire, je suis bien aujourd'hui au RSA, j'ai peur, si je trouve un travail, de perdre de l'argent. Donc ce sujet, il est majeur, d'où l'augmentation de la prime d'activité. Deuxième sujet, ambition du RSA qui a échoué, c'était de réconcilier les parcours d'accompagnement professionnels et sociaux. À l'époque, il devait y avoir une file unique, et c'est cette file unique que nous voulons créer aujourd'hui. Encore une fois, les dispositifs nationaux, c'est très bien. Ce qui compte, c'est l'art de la mise en œuvre avec les territoires, et c'est ce à quoi nous allons nous atteler maintenant.
Bon, il y a encore évidemment beaucoup de dispositifs dont on aurait pu parler, mais il est 14h53 et c'est l'heure de retrouver Arjuna Andrade pour les nouvelles de l'écho. Bonjour Arjuna.
Bonjour Tiffaine, bonjour à tous.
Vous avez choisi aujourd'hui de nous parler d'une utopie, un droit à l'emploi pour tous.
Mais oui, 10 zones d'expérimentation, petit village gaulois qui résiste encore et toujours à l'empire du marché. et qui ont fait le pari fou de donner un emploi aux personnes en faisant la demande, tout simplement. Portée initialement par l'association de lutte contre la pauvreté ATD Carmonde, puis entérinée par une loi en 2016, cette initiative a pour vocation de faire sortir les personnes en situation de chômage de longue durée du cercle vicieux de l'exclusion. En réalité, le principe est assez simple. L'État finance la création d'emplois destinés à des personnes éloignées du marché du travail. Concrètement, les volontaires se présentent et définissent avec les encadrants un projet qui pourrait leur convenir en fonction de leurs compétences et aptitudes. Ce sont des CDI, payés généralement au SMIC, et créés directement au sein de ce que l'on appelle une entreprise à but d'emploi, société à but non lucratif qui embauche des chômeurs et les propose comme main-d'œuvre aux entreprises et collectivités locales.
L'accent est donc mis sur l'utilité du travail.
Exactement. Le constat d'ATD était en réalité assez simple. Personne n'est inemployable et chaque chômeur a des compétences qui peuvent être utiles à la société si elles sont mobilisées correctement. D'autre part, la France ne manque pas de travail, mais plutôt d'emploi. Des besoins innombrables existent qui ne sont pas satisfaits car leur rentabilité est trop faible. Entretien des espaces verts, recyclage, épicerie ambulante ou dépôt de pain, les exemples ne manquent pas. C'est donc la brèche dans laquelle a décidé de s'insérer l'expérimentation zéro chômeur de longue durée, en s'interdisant d'empiéter sur le travail des entreprises implantées sur le territoire.
Ces expérimentations ont également une forte dimension sociale.
Oui, car elles poursuivent également une volonté de réinsertion et de resociabilisation à l'égard des bénéficiaires du dispositif. Certes, ces emplois sont au SMIC, mais ils permettent, selon les mots des bénéficiaires, de se remettre le pied à l'étrier, de retrouver un rapport à la vie réelle grâce à leur travail et aux nouvelles formes de sociabilité qui en découlent. Les concepteurs du projet pointent également le coût, en réalité neutre, du dispositif. Puisqu'il faut bien des arguments sonnants et trébuchants pour convaincre du bien fondé de tels projets, ces défenseurs mettent en avant les coûts évités pour la société qui n'a plus à payer pour le chômage et les aides des bénéficiaires. Comme explique Laurent Grand-Guillaume, président de l'initiative, un chômeur de longue durée coûte en moyenne 17 000 euros par an, sans compter les différentes allocations qui font monter ce chiffre à 25 000 euros par an. Un SMIC coûte lui aux alentours de 20 000 euros par an, c'est donc une manière d'utiliser des dépenses dites passives pour créer des activités utiles et bénéfiques pour l'ensemble de la société.
Et l'expérimentation est un vrai succès, Arjuna.
Oui, sur les 10 territoires concernés, il y a eu en un an 450 embauches en CDI, un chiffre particulièrement impressionnant quand on sait qu'il correspond sur le terrain des bassins de 5 000 à 10 000 personnes à un recul de 25% du nombre de personnes en situation de chômage de longue durée. Le plan pauvreté présenté par le gouvernement devrait d'ailleurs permettre l'extension au niveau national du dispositif et la création de 2 000 nouveaux emplois d'ici à 2020. Ce succès est d'ailleurs une réponse formidable aux critiques du projet qui s'inquiétaient du risque de payer des gens à ne rien faire, toujours la même crainte d'un argent public jeté par les fenêtres pour entretenir des assistés fainéants. En réalité, le travail existe, ainsi que la possibilité d'un emploi pour chacun, même s'ils ne suivent pas nécessairement les logiques sinueuses du marché. C'est justement toute l'intelligence de ce dispositif, remettre en cause la vieille logique binaire, charité-contrepartie, qui est une manière de faire perdurer la dichotomie entre bons et mauvais pauvres. Il n'est plus simplement question de distribuer de l'argent, ni d'exiger des contreparties artificielles, mais bien d'offrir un droit à l'emploi, bénéfique non seulement pour les bénéficiaires, mais aussi pour l'ensemble de la société. If you got no place to live, yo. If you ain't got no job, if you ain't got no dough, yeah. I'm broke as fuck. Proud to be poor. Proud to be white. Proud to be who? Poor people. Poor people. Poor, poor, poor people. Proud to be poor. Turn the mic down a pinch. Turn it back a bit. Proud to be white. Proud to be who? Poor people. Poor people. I don't want this rugged man, take no shit. Notice you fake, I just go where the dough is. We do this for the poor people, cats that are homeless. My whole clique roll thick, roll with strictly broken, hopeless. Y'all can't even see what the truth is. We ain't give two shits, ruthless, rugged, new shit. You ain't think that I can fuck you, bitch. You ain't think you roll with us, you be sucking dicks. Lack politeness like this, don't act like the typical stereotypes of what's whiteness. Being grimy, greasy, that's what being white is. I got a bitch with a flat ass and I like it. I like big breasts and I like to lick vaginas and fucking bitches on dumpsters in the back of diners. Everything we do is white trash and razor blades to the wrist cause we hate life with a passion. Proud to be poor. Proud to be white. Proud to be who? Poor people. Poor people. Poor, poor, poor people. Proud to be poor. Proud to be white. Proud to be who? Poor people. Poor people. Poor, 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 poor people. Yo, I like being broke, I like being
On se quitte sur Poor People de The Rugman. Merci beaucoup Olivier Noblecourt, délégué interministériel à la prévention et à la lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes.
Je confirme pour Territoire Zéro Chômeur.
Et merci à vous Serge Pogam, sociologue, auteur de Ce que les riches pensent des pauvres, publié au Seuil. Vous pouvez bien sûr réécouter nos émissions sur franceculture.fr et en podcast. Et rendez-vous également sur Twitter, hashtag Entendez-vous l'écho. Understand that, where your man at? We blow your head backwards, we lend a flare that. We rugged man at, you better watch out. Don't talk that, you fake that. Fakeness, take that, with your platinum plaque. Proud to be poor. Proud to be white. Proud to be good. Poor people. Poor people. Poor, poor, poor people. Proud to be poor. Proud to be white. Proud to be good. Poor people.